Merci de nous avoir écoutés.
Au revoir.
Au revoir.
Radio Canu.
C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info de mercredi. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info de mercredi.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2 et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.
Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios, et comme un mercredi sur deux, comme pardon, tous les mercredis soirs de 20h à 21h sur ce 102.2 de Radio Canu, bah, c'est l'émission Idées Noires. L'émission Idées Noires, vous y êtes habitués depuis plusieurs décennies sur ce 102.2, c'est l'émission de l'UCL, du groupe local de l'UCL, l'Union Communiste Libertaire. Une heure ensemble de 20h à 21h, pendant lequel on va faire un petit tour d'horizon de l'actualité sociale, politique, sous un point de vue bien sûr libertaire. Comme d'habitude sur Radio Canu. Et puis ce soir, une émission un peu spéciale, parce qu'une émission fondamentalement sous le signe du féminisme. Vous allez découvrir tout ça au cours de cette émission, parce qu'on va revenir sur la journée du 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux minorités de genre, les manifestations qui l'ont précédée au cours du week-end. On va commémorer les 50 ans du début du débat parlementaire sur l'adoption de la loi Veil, cette loi qui a enfin légalisé l'interruption volontaire de grossesse en France et permis la liberté de choix et la liberté de disposer de son corps à toutes les femmes. Et puis on va commémorer aussi, pour finir cette page féministe qui n'est pas toujours joyeuse, commémorer une lutte importante et une lutte qui montre que quand les femmes s'organisent et luttent ensemble collectivement, ça peut payer, puisqu'on va commémorer les 100 ans des peines sardines. On vous racontera tout ça au cours de cette émission et on vous en dira plus. Mais comme d'habitude, pour commencer cette émission Idées Noires, on va démarrer avec les rendez-vous et les annonces. Quelques petits rendez-vous et annonces. Tout d'abord, pour vous rappeler tout simplement que vous pouvez retrouver les militantes et les militants de l'Union communiste libertaire Lyon à la librairie La Plume Noire, qui est une librairie associative, locale militant, autogérée par les militantes et militants de l'Union communiste libertaire. C'est au 8 rue Diderot, sur les pentes de la Croix-Rousse, dans le 1er arrondissement. Et la librairie est en général ouverte tous les samedis après-midi de 17 à 19h, sauf si bien évidemment mobilisation sociale qui décale les heures d'ouverture. Mais tenez-vous au courant sur nos différents réseaux sociaux. En général, c'est annoncé. On parle d'une librairie libertaire, de la librairie libertaire La Plume Noire, à Lyon depuis longtemps aussi. Les années 70, il y a la librairie La Griffe dans le 7e arrondissement, rue Sébastien Griffe. Et bien la librairie La Griffe, elle vous invite à un pot ce week-end. Alors à la fois pot de rentrée parce qu'ils n'en ont pas fait à l'occasion de la rentrée de cette nouvelle année scolaire, et pot de fin d'année, un petit mélange entre les deux. Ça sera ce samedi 30 novembre à partir de 18h. À la librairie La Griffe, leur pot traditionnel, annuel, où tout le monde est le bienvenu, bien évidemment. Et puis deux rendez-vous de lutte importants dont on vous reparlera dans cette émission, deux rendez-vous de grève et de manifestation. Tout d'abord le jeudi 5 décembre prochain, c'est jeudi prochain, donc l'équipe de la semaine prochaine dans cette émission Idées Noires va sûrement revenir dessus. C'est une manifestation de l'ensemble de la fonction publique contre l'offensive libérale et les politiques d'austérité qui sont menées par le gouvernement. Manifestation nationale, bien évidemment, à l'appel d'un grand arc syndical de la fonction publique. On y reviendra un peu plus tard sur la fin de cette émission. En tout cas, tout ça pour vous annoncer qu'à l'occasion de cette grève de la fonction publique jeudi 5 décembre, la manifestation aura lieu à Lyon à 11h, place Jean Masset, dans le 7e arrondissement. Et puis la semaine d'après, le jeudi 12, va-t-on savoir, peut-être que la fonction publique sera, ou en tout cas certains secteur toujours dans la rue ou de nouveau dans la rue selon comment réussit cette journée du 5 décembre. En tout cas, le 12, il y aura déjà les cheminots qui appellent à 3 jours de mobilisation, les 11, 12, 13. Et puis le 12, il y aura une journée interprofessionnelle d'action dans le privé sur la question de l'emploi face aux nombreux licenciements qui vont avoir lieu dans l'industrie, avec là pareil un rassemblement qui sera organisé dans la matinée. Les camarades vous en parleront plus précisément et vous donneront le rendez-vous exact mercredi prochain, en tout cas nouvelle journée d'action le 12 décembre. Et puis pour terminer cette première page d'annonce, on termine par un autre rendez-vous de ce samedi. On vous a dit il y avait le pot de la librairie La Griffe samedi à 18h, mais ce samedi avant ça, il y a aussi une manifestation contre les violences policières et pénitentiaires ce samedi 30 novembre, une manifestation qui démarrera place Jean Masset dans le 7e arrondissement à 14h, une association qui est en partie à l'initiative de l'Association des victimes des crimes sécuritaires, qui est une association qui s'est fondée sur la parole et les luttes qui sont menées par les familles dont un fils ou un frère ont été tués par les fonctionnaires de l'État, par des flingueurs assermentés ou non, qui agissent sous couvert de l'autodéfense ou de toute autre sémantique sécuritaire. Et ces familles qui réclament justice, qui sont déterminées face au déni de la justice d'État, appelle à cette manifestation pour dénoncer les violences policières et pénitentiaires ce samedi 30 novembre à 14h, place Jean Masset. Voilà, c'était les rendez-vous qu'on avait envie de vous faire part en ce début d'émission Idées Noires. On reviendra sur la grève interprofessionnelle du 5 décembre prochain en fin d'émission. On vous l'a dit, par contre, première partie de cette émission, une émission résolument féministe. Céline, est-ce que tu veux nous présenter le morceau qui va nous servir à introduire ce grand thème ce soir au cœur d'Idées Noires?
Oui, merci beaucoup David pour tout l'agenda et puis tout ce qui nous attend. Effectivement, cette semaine encore, beaucoup d'actualités féministes. Alors, notamment la chanson qu'on va tout de suite vous passer s'appelle Conscience sin miedo, qui signifie la chanson sans peur. C'est une chanson qui a été composée par l'artiste mexicaine Vivir Quintana à la suite d'une commande de l'artiste mexico-chilienne Moon Laferte afin de visibiliser le sujet des féminicides. Parce que au Mexique, ce sont presque 10 femmes qui meurent chaque jour en raison de leur genre. La chanson, elle a été interprétée pour la première fois le 7 mars 2020 sur la place du Zocala, la place de la Constitution à Mexico. Elle a ensuite été reprise le lendemain lors des manifestations à l'occasion du 8 mars, donc la Journée internationale des droits des femmes. Et depuis, elle est devenue un hymne féministe contre les féminicides et les violences faites aux femmes, qui est repris essentiellement en Amérique latine, mais aussi partout dans le monde. Et nous avions envie d'ouvrir donc le sujet de ce soir avec cette chanson, qui est une chanson très forte, qui parle de femmes disparues, de la lutte des femmes qui les cherchent et qui demandent justice pour elles.
Allez, Canción Sin Medio pour ouvrir cette émission Idées Noires, 102.2, Radio Canu, la plus rebelle des radios.
Tiembla el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron a... Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, responderé. Gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida.
Y retiembla en sus centros la tierra, al soro.
Canción Sin Medio sur Radio Canus 102.2, l'émission Idées Noires, l'émission de l'Union communiste libertaire, et rien de tel que cette chanson dont on entend la fin encore en fond pour commencer cette émission, on vous le disait, résolument féministe, et une émission où on va revenir sur la journée de lundi, 23 novembre, journée internationale de lutte faite aux femmes.
Alors, c'était le 25 novembre lundi.
25 novembre,
mais,
pardon.
Mais la manif a eu lieu le 23 novembre. Donc, tu nous as fait un beau mix des deux.
Tout à fait.
Et donc, pourquoi le 25 novembre ? Donc, le 25 novembre, ça remonte, il y a toute une histoire derrière. Ça a été proclamé Journée internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes le 17 décembre 1999 par l'Assemblée générale de l'ONU. Et donc, chaque année, nous nous réunissons, nous organisons un rassemblement, généralement suivi d'une manifestation, pour visibiliser dans l'espace public les violences faites aux femmes et aux minorités de genre. Cette année encore, la mobilisation lyonnaise a réuni du monde, place Bellecour, puis en déambulation du côté du Vieux-Lyon et une partie de la Presqu'île, à l'appel de nos organisations politiques et syndicales, du collectif Droits des Femmes 69 et du collectif Palestine 69, parce que cette année aussi, c'était pour un cessez-le-feu au Liban et en Palestine. Donc c'était vraiment une nouvelle belle occasion de montrer la solidarité internationale féministe. L'UCL y était pleinement présente au sein d'un joli cortège et pour rappeler donc que les violences sexistes et sexuelles n'ont pas leur place dans la société que nous souhaitons. Donc je vais revenir sur quelques chiffres donc qui sont un peu assez éloquents mais difficiles, qui sont complètement éloquents mais un peu difficiles à entendre, mais voilà, c'est une réalité, il faut en parler, c'est nécessaire. Donc cette année encore, ce sont 122 féminicides qui ont été dénombrés depuis le 1er janvier, donc un chiffre qui est malheureusement relativement stable depuis quelques années, et donc l'année n'est pas encore finie. C'est une femme sur deux qui a déjà été victime de harcèlement ou d'agression sexuelle au moins une fois dans sa vie, et c'est 100% des femmes qui ont subi du sexisme, voilà. Si vous demandez à une femme, elle vous dira que de toute façon, elle en a subi, elle en subira encore, malheureusement. 75% des agressions islamophobes visent des femmes. 80% des femmes handicapées ont déjà été victimes de violences. Et 85% des personnes transgenres sont agressées au cours de leur vie. Un viol ou une tentative de viol a lieu toutes les 2 minutes 30 en France. On le voit donc dans la société patriarcale, les violences à l'égard des femmes et des minorités de genre permettent de les maintenir dans une position de domination. Les violences sexistes et sexuelles forment un ensemble. C'est parce qu'il y a des violences quotidiennes que des violences plus graves peuvent survenir. Ainsi, le harcèlement sexuel a plus de chances d'arriver dans un environnement où le sexisme est toléré par le groupe social. La situation de harcèlement sexuel ou de violence sexiste constitue un terreau favorable aux agressions sexuelles, comme on l'a vu notamment dans le procès des viols de Mazan. Et donc je vous propose, on va enchaîner sur d'autres sujets, de lancer une petite chanson aussi qui parle de ce sujet-là, qui s'appelle Me and a Gun, qui est une chanson de Tori Amos, qui est une autrice, compositrice, interprète états-unienne, qui date de 1991 et qui relate en fait le viol dont elle a été victime à l'âge de 21 ans, en 1985. Elle a écrit donc, ça lui a servi de catharsis d'écrire cette chanson. Et donc le contexte, c'est qu'après avoir joué et chanté une nuit dans un bar, elle a raccompagné en voiture l'un des clients à la demande du patron du bar. Et ce client l'a menacé avec un couteau pour l'agresser sexuellement. La chanson que nous allons écouter revient sur cet épisode douloureux. Elle l'a chantée dans ses concerts pendant près d'une dizaine d'années et elle s'est investie également dans la lutte contre les violences sexuelles. Elle a notamment été la première porte-parole d'une organisation états-unienne de lutte contre les agressions sexuelles qui a été créée en 1994 et qui s'appelle REN pour Rape, Abuse and Incest National Network, donc un réseau, une organisation nationale au niveau des États-Unis. Contre les violences sexuelles et sexistes, notamment le viol, les agressions sexuelles et l'inceste. Et je vous propose d'écouter cette chanson et ensuite on reviendra sur les 50 ans de la loi Veil, donc quelque chose qui est un petit peu plus joyeux que ce dont on vient de parler.
Elle est toujours dans cette émission Idées Noires sur 102.2 de Radio Canu, Me and the Gun.
Friday morning, Thursday night, far from sleep, I'm still up and driving, can't go home, obviously, so I'll just change direction, cause they'll soon know where I live, and I wanna live, got a full tank and some chips. Was me and a gun and a man on my back, and I sang holy, holy as he buttoned down his pants. You can laugh, it's kind of funny, the things you think in times like these. Like I haven't seen Barbados, so I must get out of this. Yes, I wore a slinky red thing. Does that mean I should spread for you, your friends, your father, Mr. Ed? Was me and a gun and a man on my back. But I haven't seen Barbados, so I must get out of this. And I know what this means. Me and Jesus, a few years back, used to hang, and he said, it's your choice, babe. Just remember, I don't think you'll be back in 3 days' time. So you choose well. Tell me what's right. Is it my right to be on my stomach? A Fred Seville. It's me and a gun. And a man on my back. But I haven't seen Barbados, so I must get out of this. And do you know Carolina, where the biscuits are soft and sweet? These things go through your head when there's a man on your back. You're pushed flat on your stomach. It's not a classic Cadillac. Me and a gun and a man on my back. But I haven't seen Barbados, so I must get out of this. I haven't seen Barbados, so I must get out of it.
Mis un œil encore sur ce son 2.2 de Radio Canu dans l'écoute de l'émission Idées Noires, et on vous l'a dit, on va poursuivre avec un retour sur il y a 50 ans exactement, quasiment, c'était les débuts du débat parlementaire sur la loi dite qui portera le nom de celle qui l'a présentée à l'Assemblée nationale, la loi Veil sur le droit à l'interruption volontaire de grossesse.
Et oui, tout à fait, puisque c'était le 26 novembre 1974, Simone Veil, devant un parterre d'hommes, a introduit un projet de loi qui légalise l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, à l'Assemblée nationale. La loi qui était alors en vigueur à l'époque datait de 1920. Elle va donc jusqu'à punir d'un an d'emprisonnement toute personne qui fait l'apologie de l'avortement ou de la contraception, et pourtant la pilule était autorisée depuis 1967. Donc on voit bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout. Une première proposition de loi du coup sur l'avortement est proposée déjà en 1970 par un médecin député gaulliste qui s'appelle Claude Perret. Son projet porte alors sur les avortements dits thérapeutiques, qui seraient autorisés sous certaines conditions, à savoir en cas de viol, en cas d'inceste, de mise en danger de la vie de la femme, ou encore de certitude d'atteinte grave de l'enfant à naître. Donc ça faisait beaucoup de conditions. Et ce projet, de toute façon, il a été jugé d'une part immoral par les conservateurs qui parlaient à l'époque de, je cite, « massacre d'innocents », et d'autre part par les progressistes totalement insuffisants pour répondre à ce drame que les femmes vivaient à l'époque en subissant des avortements clandestins qui menaçaient leur vie. Donc le texte est rejeté, mais toutefois le débat est quand même porté à l'Assemblée nationale, et puis dans la société aussi, il y a plusieurs événements qui remettent la question sur le devant de la scène. Donc on va revenir sur ces événements. Au début des années 70, il y a eu tout d'abord, en avril 1971, la publication dans le Nouvel Observateur, qui était un journal d'une autre teneur, le manifeste des 343 femmes qui avaient déclaré avoir eu recours à un avortement. Donc parmi ces femmes, il y avait des illustres inconnues, mais aussi des femmes très célèbres, comme Simone de Beauvoir, comme Marguerite Duras, comme Catherine Deneuve, qui a mal tourné par ailleurs. Ces femmes-là sont soutenues par le mouvement de libération des femmes, le MLF, qui lutte pour la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse. Puis il y a eu un autre événement particulièrement marquant, qui s'est tenu en octobre et novembre 1972 à Bobigny, le fameux procès de Bobigny, qui vous dit peut-être quelque chose, où Gisèle Halimi, avocate féministe, a obtenu non sans peine la relaxe de Marie-Claire, qui était alors mineure et accusée d'avoir avorté après avoir subi un viol. Et notamment, enfin, quelque chose qui est vraiment totalement incroyable, c'est que c'est son violeur qui l'avait lui-même dénoncé. Donc, pour dire l'état d'esprit aussi.
Une jeune fille de 17 ans.
De l'époque, ouais.
Élevée seule par sa mère, employée de métro avec ses deux sœurs.
Et donc, sa mère l'a complètement soutenue et accompagnée pendant ce procès. Ça a été d'une violence inouïe également.
Un procès qui a permis de dénoncer l'hypocrisie qu'il y avait autour de la pratique de l'IVG, où on savait très bien que derrière l'accès à l'IVG, il y avait aussi une question de classe et une question de sociale extrêmement importante, que comme ça a été si bien dit lors de ce procès, Marie-Claire n'avait pas la chance d'avoir 3000 francs à l'époque pour se rendre à Londres, Amsterdam ou Genève, ou même pour payer discrètement un médecin dans une clinique privée parisienne pour accéder à un IVG dans des conditions correctes, et qu'elle se trouvait traînée devant les tribunaux parce qu'elle se retrouvait jeune fille seule avec une mère qui l'avait élevée seule avec ses deux sœurs et d'une classe sociale qui ne lui permettait pas, dans toute discrétion, pouvoir accéder à l'interruption volontaire de grossesse que la loi lui refusait, et donc qui posait un vrai problème d'égalité entre les femmes dans l'accès, dans le choix de librement choisir leur grossesse ou pas.
Et donc voilà, ce procès a été aussi une pierre fondatrice. A enclenché tout le processus aussi législatif qui va suivre, puisque entre 1970 et 1973, il y a eu plusieurs propositions de loi, je crois qu'il y en a eu 4 ou 5, aussi bien de gauche que de droite, qui ont été déposées à l'Assemblée nationale, mais aucune d'entre elles n'a obtenu de majorité, parce que de toute façon, d'un côté comme de l'autre, il était hors de question finalement de laisser les femmes décider librement de leur corps. Et en 1974, c'est le nouveau président, fraîchement élu, Valéry Giscard d'Estaing, qui a repris ce sujet et qui l'a confié à une femme, donc Simone Veil, qui était alors ministre de la Santé, mais totalement inconnue du grand public. Il lui a confié le soin de proposer un nouveau projet de loi. Et la proposition qu'elle a portée a été au-delà des propositions antérieures, puisqu'elle proposait même que l'IVG soit possible jusqu'à 10 semaines de grossesse, donc qui était quelque chose qui allait encore plus loin que tout ce qui avait pu être proposé jusqu'alors, ce qui lui a attiré les foudres, y compris de son propre parti, de sa propre majorité, avec des attaques d'une violence incroyable. Certains n'hésitant pas, donc c'est des hommes qui s'en sont pris directement à elle, à s'opposer publiquement à ce qu'il nommait aussi un avortement pour convenance personnelle, je cite également. Donc un terme que vous avez sans doute entendu repris à divers moments par l'extrême droite et qui est toujours en partie utilisé par nos ennemis de classe. Et le 26 novembre 1974, pendant une heure, Simone Veil a présenté son projet de loi, donc visant à légaliser l'avortement, dans un hémicycle composé en très grande majorité d'hommes, loin d'être acquis à sa cause.
Et devant des insultes où on l'accusait d'organiser le génocide des enfants français, faisant référence bien évidemment à elle qui, d'origine juive, avait survécu au génocide de la Seconde Guerre mondiale, et on entendait crier dans l'hémicycle « au four, t'aurais dû finir dans les fours, dans les crématoires d'Auschwitz-Birkenau ». Donc on peut imaginer, elle qui avait laissé sa mère et qui avait subi à 16 ans la déportation dans les camps de la mort, la violence des attaques qui était aussi laissé entendre l'antisémitisme encore profond qu'il pouvait y avoir, en plus de la domination masculine qui s'est exprimée à ce moment-là à l'occasion de ses prises de parole.
Oui, exactement. Voilà, j'avais cet exemple-là aussi qui est très violent. Il y a aussi eu quelques soutiens. On peut les signaler parce que c'est intéressant aussi, notamment un député socialiste qui est monté à la tribune et qui lui a dit « Madame, votre combat nous honore et sachez que vous avez le respect, l'admiration de vos amis, mais également de vos adversaires politiques ». Donc il y a quand même quelques traces d'humanité dans tout cela, et à l'issue de 3 jours de débats intenses, enflammés, le texte a été adopté. Il a été adopté par 284 voix pour et 189 voix contre. Donc il a été adopté, mais quand même, voilà, ça a été une bataille qui a dû être menée d'arrache-pied. Et la loi Veil a été promulguée donc le 17 janvier 1975. À noter que quand même, la loi Veil sur l'interruption volontaire de grossesse s'intitule exactement la loi sur l'interruption volontaire de grossesse en situation de détresse. Et que le terme situation de détresse n'a été abandonné qu'en 2014, donc il y a juste 10 ans. Donc il faut savoir que quand même, il y avait quand même encore ces conditions-là. Et que son entrée en vigueur, à l'origine, était initialement prévue pour une durée de 5 ans, à titre expérimental. Et elle a été fort heureusement reconduite sans limite de temps fin décembre 1979. Et donc pour terminer sur la, cet événement qui a été la loi Veil, on a une actualité en début d'année, le 4 mars 2024, puisque l'IVG a été inscrite dans la Constitution française permettant d'ancrer un peu plus fortement ce droit pour toutes les femmes.
Et puis ce qu'on peut rappeler aussi sur l'adoption de cette loi, c'est que si Simone Veil en a été le symbole et a laissé son nom inscrit dans l'histoire par rapport à l'obtention de celle-ci, il ne faut pas oublier qu'encore une fois, il n'y a pas ni d'homme ni de femme providentielle dans ce cas-là, que Simone Veil n'aurait rien pu faire toute seule s'il n'y avait pas eu, au cours des années précédentes, des milliers de femmes qui s'étaient mobilisées, qui avaient soutenu Marie-Claire lors du procès de Bobigny, qui avaient fait un manifeste dans Nouvel Observateur, qui étaient descendues dans les rues, comme le 8 mars 1971 à Paris, pour dénoncer le fait que, comme tu le disais si bien, chaque année, c'était 5000 femmes qui étaient victimes en France d'avortements clandestins et qu'il y avait un vrai, véritable mouvement collectif qui était porté par des milliers d'anonymes qui revendiquaient cette liberté de pouvoir choisir un enfant quand elles veulent, si elles veulent, avec qui elles veulent, revendiquer le droit à librement disposer de leur corps par l'accès à l'IVG qui soit rendu légal, tout comme à la contraception libre et gratuite, puisqu'en effet, si la loi Neuwirth en 1967 avait légalisé la pilule contraceptive, celle-ci n'était ni libre ni gratuite parce qu'elle n'était pas librement prescrite par un médecin généraliste mais simplement par un gynécologue au cours d'une consultation qui coûtait plus cher et qu'elle n'était pas remboursée par la sécurité sociale et qu'il faudra attendre la loi Veil qui, parce que on sait que la meilleure façon de limiter les avortements dans une société, c'est absolument pas de les interdire, parce que depuis la nuit des temps, les femmes ont toujours cherché à se débarrasser d'une grossesse qui n'est pas désirée, que c'est pas par la répression et l'interdiction qu'on empêchera les femmes de librement disposer de leur corps, mais c'est en leur permettant d'avoir un plein accès à la contraception qui peut permettre justement de limiter au maximum le recours à l'avortement, qui n'est qu'un recours en cas d'échec ou d'absence de contraception, et que, bien évidemment, cette loi Veil, elle va entraîner la liberté de la contraception prescrite par tout médecin généraliste dans le cadre d'une consultation remboursée, ainsi que le remboursement de la pilule contraceptive qui avait été adoptée en 1967 suite à la proposition du docteur Neuwirth.
Voilà, vous avez toutes les informations, c'est extrêmement complet pour terminer sur ce point-là. Et puis aussi, signaler qu'aujourd'hui, c'était le jour où le verdict a été rendu dans les procès de viol de Mazan. Donc des peines qui vont de 4 à 20 ans de réclusion ont été requises contre les 51 accusés. Donc 50 ans après le procès de Bobigny, c'est de nouveau un procès historique qui s'est tenu en Avignon pendant près de 3 mois. Et de l'affaire Pellicot, qu'est-ce qu'on retiendra? Moi, je pense qu'on se souviendra
On rappelle juste, au cas où, que ce procès de Mazan, le procès d'un mari qui a livré en pâture sa femme qu'il droguait à une cinquantaine d'hommes qu'il recrutait sur Internet et à qui il offrait de venir violer sa femme pour le plaisir, tout simplement, de regarder sa femme soumise, droguée et livrée à d'autres hommes qui venaient.
Et de cette affaire, donc Pellicot, donc qui est le nom, qui est leur nom à tous les deux, enfin son nom à lui, qu'elle a conservé. On se souviendra surtout de Gisèle, je pense. Gisèle, la victime de la violence des hommes, mais surtout Gisèle, la femme incroyablement forte, la femme qui s'est battue pour que ce procès ne soit pas à huis clos. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important qui va très certainement augurer d'autres procès publics comme cela. Et on espère que cela puisse faire changer les choses vers le mieux. Et je crois que tu avais justement une annonce à faire à ce sujet-là d'un site qui vient d'être mis en ligne aujourd'hui.
Oui, à l'occasion. Alors, on fait référence à beaucoup de dates anniversaires ou de dates importantes. Dimanche, on sera le 1er décembre et traditionnellement, le 1er décembre, c'est la journée internationale de lutte contre le sida. Pandémie désastreuse pour la libre sexualité de toutes et tous depuis le début des années 80. Et donc, le 1er décembre, c'est l'occasion de se mobiliser. Et en écho à ce procès de Mazan et cette affaire Pellicot, qui est le symbole de la domination masculine et des violences faites aux femmes dans toute sa splendeur. On sait qu'aujourd'hui, dans les représentations de la sexualité et qui entraînent un certain nombre de violences faites aux femmes, la pornographie et la diffusion de la pornographie et de formes de pornographie de plus en plus trash et de plus en plus violentes, accessibles à tous en un clic au bout des doigts, joue un rôle extrêmement important dans les stéréotypes de genre, dans les stéréotypes assignés à la femme soumise et à l'homme dominant dans ce que devrait être une relation sexuelle, et que bien évidemment cette pornographie, elle nourrit ces stéréotypes, elle nourrit les violences qui sont faites aux femmes, et elle nourrit cette culture du viol qu'on dénonce aussi régulièrement sur cette antenne. Et ben, on voulait saluer l'initiative de l'ALS, l'association de lutte contre le sida, qui au-delà d'être une association de prévention contre le sida, est aussi une association d'éducation populaire qui, dans le cadre du SIDAction, a lancé à partir d'aujourd'hui, ça tombe bien, le site a été rendu public aujourd'hui dans le but d'être largement diffusé d'ici dimanche, un site qui s'appelle SIDAction, mais SIDA XXX 3xion.fr, et qui est en fait un fake d'une plateforme, d'une page d'accueil d'une plateforme pornographique, mais sur lequel vous allez retrouver 4-5 vidéos sur différents thèmes qui sont en général mis en valeur pour aguicher sur les plateformes de sites pornographiques. Et sauf que bien évidemment, ça fait plof, puisque au bout de quelques secondes de cette vidéo, les acteurs de cette vidéo ne vont pas se comporter comme dans une vidéo pornographique, mais bien au contraire, dénoncer le contenu de celle-ci, dénoncer les conséquences que peuvent avoir celle-ci sur la construction de la sexualité de ceux, notamment des jeunes hommes qui les regardent, et des violences qui peuvent être faites dans les relations de couple, qui peuvent être faites dans cette culture du viol. Donc voilà, rappelez que là encore, comme sur l'IVG, c'est pas par la répression qu'on fera changer les choses, mais c'est bien par l'éducation à la sexualité, qui est une des premières formes de protection contre les violences faites aux femmes, contre les comportements dangereux et contre la négation du consentement, qui est pourtant quelque chose de fondamental dans toutes les étapes d'une relation sexuelle et d'une relation épanouie entre les sexes, quels qu'ils soient. Donc on voulait saluer cette initiative, n'hésitez pas à aller voir sidaxxion.fr, sidaction.fr, un très beau site qui vaut le coup, qui est un bijou, qui vaut le coup d'aller voir et qui porte des valeurs progressistes d'éducation à une sexualité épanouie et bien loin des stéréotypes véhiculés par la pornographie.
Et bah parfait, et puis je crois que tu avais une petite chanson qui allait bien sur le droit des femmes à disposer librement de leur corps pour clore ce petit chapitre-là.
Exactement, en écho aux 50 ans du débat parlementaire sur la loi Veil, on fait une nouvelle pause musicale, on va retrouver la fraction qui, sur leur dernier album, nous chantait cette belle chanson qui s'appelle Pas d'enfant, sur cette liberté des femmes de choisir si oui ou non elles veulent un enfant, quand elles veulent et avec qui elles veulent. La fraction.
Thank you.
enfants de la fraction sur 102.2 de Radio Canu, dans cette émission Idées Noires, émission du groupe local de l'UCL. Un morceau qui a la rage, un morceau qui a la rage comme avaient la rage les peines sardines au début du XXe siècle.
Et oui, parce que les luttes sont belles et peuvent aussi être victorieuses. Nous avions envie ce soir de revenir sur la grande grève des peines sardines à Douarnenez en novembre 1924, il y a tout juste 100 ans. Les femmes n'avaient alors pas le droit de vote. Elles l'obtiendront en France en 1944. À Douarnenez, qui est un joli petit port de pêche en Bretagne, la vie s'est développée autour de la sardine. L'industrie de la conserve de ce petit poisson a connu une ascension fulgurante et alors à son apogée. Toutefois, la loi de 1919, qui limitait la journée de travail à 8 heures, n'est absolument pas respectée par les patrons, on n'est pas très étonnés. Hein. Donc les patrons de ces usines sardinières qui imposent des cadences infernales aux peines sardines. Les peines sardines, c'est le terme qui signifie littéralement tête de sardine, qui est le nom donné en fait aux sardinières de Douarnenez. Ces sardinières qui s'usent l'échine jusqu'à près de 14 heures par jour, la nuit, sans repos, debout, dans le froid, avec leurs sabots, dans le froid et la nuit. Donc jusqu'à 14 heures d'affilée pour un salaire de misère. À l'époque, c'est 80 centimes de l'heure, ce qui correspond au prix d'un litre de lait et évidemment à l'époque à la moitié du salaire des hommes pour un poste similaire. Mais dans cette ville, récemment communiste, la conscience de classe va grandissant. Il y a déjà eu une première grève victorieuse en 1905 qui a permis d'obtenir un salaire à l'heure plutôt qu'aux 1000 de sardines travaillées. Donc c'est déjà une avancée sociale. Donc elles sont fortes de cette première grève victorieuse. Et puis aussi, à la suite de cette grève, il y a eu un syndicat professionnel composé uniquement de femmes qui a été créé. Donc ça fait des conditions favorables pour permettre de se lancer en fait dans une grève qui va être, on va le voir, qui va être longue et qui va être difficile. Les femmes commencent à s'organiser. Donc ça a commencé le 21 novembre 1924. C'est les ouvrières d'une usine qui ont d'abord demandé à être reçues par le contremaître pour aborder la question du salaire et des horaires. Celui-ci a refusé. C'était une mauvaise idée de sa part de refuser. Les ouvrières ont alors quitté l'usine et se sont rendues auprès des autres sardinières dans les autres usines afin de propager la contestation. Elles sont aussi allées voir le maire, communiste donc, on l'a dit, qui sera un appui de poids au niveau politique dans leur lutte. Le 25 novembre, c'est la totalité des usines de la ville qui débraille. Il y a plus de 1500 ouvrières qui se mobilisent, qui reçoivent le soutien des ouvriers, qui manifestent également avec elles. C'est près de 500 ouvriers qui viennent défiler avec elles le 25 novembre. Et aussi, elles reçoivent le soutien, et ça c'est important, c'est un soutien de poids, de la Confédération Générale du Travail Unitaire, la CGTU, qui va les aider aussi à organiser la grève dans la durée et qui va les convaincre de hausser de leurs revendications pour demander jusqu'à 1,25 franc de l'heure, alors qu'elles demandaient plutôt 1 franc. Et en quelques jours, c'est toute l'économie de la sardine qui est bloquée à Douarnenez. Et donc, si vous bloquez l'économie de la sardine, vous bloquez aussi tout le reste, en fait. Donc, la grève, elle va prendre une importance, elle va passer de locale à nationale, parce que les patrons refusent toujours de céder. Et puis au fil des jours, ça se répand, ça va jusqu'à Paris, jusqu'au siège du pouvoir, où à la mi-décembre, deux délégations sont envoyées au cabinet du ministre du Travail, où se déroulent des négociations. Mais tout est bloqué, les patrons refusent toujours toute négociation et reçoivent le soutien du gouvernement qui, bien sûr, ne veut rien céder aux communistes qui voient là un enjeu majeur politique. Alors, il y a un événement qui aurait pu être dramatique et je ne voudrais pas trop rentrer dans les détails parce que je préfère vous laisser le découvrir dans l'excellent article qui m'a servi de support pour ce sujet de ce soir. L'excellent article de Johanna, notre camarade du Finistère, que vous pourrez découvrir dans Alternatives Libertaires du mois de novembre, qui est toujours en vente dans vos meilleures kiosques. Donc, n'hésitez pas à aller soutenir une presse de qualité, une presse militante.
Et révolutionnaire.
Et donc vous pourrez découvrir tous les détails de cette aventure des peines sardines dans cet article, dans cette double page histoire. Et donc cet événement, donc je l'ai dit, qui aurait pu être quelque chose de dramatique et qui aurait pu complètement mettre fin à cette grève, a au contraire été, je cite Johanna, la goutte d'huile qui a fait déborder la boîte de sardines. Donc jolie expression, mais qui effectivement a mis complètement l'huile sur le feu et a ravivé la contestation. Donc là, vraiment, les patrons ont vraiment cru que ça allait fortement s'embraser. Et ils sont sommés aussi par le gouvernement de négocier. Les ouvrières ont obtenu toutes leurs revendications, donc elles ont obtenu l'augmentation des salaires, elles ont obtenu une diminution du temps de travail. Et donc, après 7 semaines de lutte acharnée quand même, donc on rappelle, c'était quand même fin novembre, tout le mois de décembre, donc jusqu'à début janvier, donc avec des conditions aussi climatiques assez peu favorables. Les peines sardines ont gagné. Donc c'est vraiment une belle grève de femmes. C'est le titre aussi de l'ouvrage qui est paru chez Libertalia l'an passé. Donc vous verrez que cette histoire aussi, et peut-être vous la connaissez par le biais d'une chanson, parce qu'elle est passée à la postérité, par une chanson qui a été composée par une accordéoniste féministe concarnoise. Donc, Outre Douarnenez, c'est l'autre port bien connu de la région. Donc, cette accordéoniste qui s'appelait Claude Michel, qui est décédée il y a quelques années, a composé les paroles et la chanson que nous allons écouter maintenant, qu'on vous propose d'écouter dans une version revue par une jeune chanteuse qui s'appelle Justine Jérémy et qui est assez, vous le verrez, enjouée, comme à l'image de cette lutte finalement.
À l'image de cette lutte victorieuse dont on est content de commémorer les 100 ans sur cette antenne de Radio Canu dans cette émission Idées Noires, parce que c'est la mémoire des luttes, la mémoire des luttes d'hier permet d'alimenter notre culture d'aujourd'hui et puis tirer des enseignements pour les luttes à venir. Et on voit que femmes debout, femmes qui luttent, femmes qui agissent collectivement, là encore, ça peut, quand on est solidaire, quand on agit ensemble, on peut retourner l'ordre des choses et puis rêver d'un autre futur en se permettant d'obtenir des revendications immédiates qui permettent d'améliorer les conditions de travail et de vie dans l'immédiat, tout en construisant des solidarités qui permettent de se rendre compte que peut-être le monde pourrait fonctionner autrement sur d'autres base, comme le dit la chanson. En attendant, on rend hommage aux peines sardines avec cette fameuse chanson.
Il fait encore nuit, elles sortent et frissonnent, le bruit de leurs pas dans la rue résonne. Il fait encore nuit, elles sortent et frissonnent, le bruit de leurs pas dans la rue résonne. Écoutez, bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez, bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines. À 10 ou 12 ans sont encore gamines, et déjà pourtant elles entrent à l'usine. À 10 ou 12 ans sont encore gamines, et déjà pourtant elles entrent à l'usine. Écoutez-moi leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez-moi leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines. Du matin au soir nettoient leurs sardines, et puis les font frire dans de grandes bassines. Du matin au soir nettoient leurs sardines, et puis les font frire dans de grandes bassines. Écoutez-moi leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez-moi leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines. Malgré leur travail, n'ont guère de salaire, et bien trop souvent vivent dans la misère. Malgré leur travail, n'ont guère de salaire, et bien trop souvent vivent dans la misère. Écoutez-moi leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez-moi leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines. Un jour tout ensemble, ces femmes se lèvent, à plusieurs milliers se mettent en grève. Un jour tout ensemble, ces femmes se lèvent, à plusieurs milliers se mettent en grève. Écoutez-moi leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez-moi leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines. Dans la ville rouge on est solidaire, et de leur victoire les femmes sont fières. Dans la ville rouge on est solidaire, et de leur victoire les femmes sont fières. Écoutez-moi leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez-moi leurs sabots, voilà qu'arrivent les sardinières. À Douarnenez et depuis ce temps, rien ne sera plus jamais comme avant. À Douarnenez et depuis ce temps, rien ne sera plus jamais comme avant. Écoutez-moi leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez-moi leurs sabots, c'est la victoire des sardinières.
Allez, la chanson. chanson des Peines Sardines sur 102.2 de Radio Canu. Idée Noire, l'émission du groupe local de l'UCL, l'Union Communiste Libertaire. On vous le rappelle, pour commémorer les 100 ans de cette lutte exemplaire, de cette lutte de femmes, de cette lutte victorieuse qu'on vient d'évoquer dans cette émission Idée Noire. Et puis on vous rappelle que si par malheur vous avez loupé le début de l'émission ou le début de l'histoire, vous pouvez d'une part retrouver l'histoire des Peines Sardines dans notre journal Atteinte Libertaire. Et puis dès demain, vous pourrez réécouter cette émission Idée Noire, comme d'habitude, sur le site de Radio Canu, sur la page de l'émission, sur le blog d'Idée Noire, où toutes les émissions sont en ligne, téléchargeables et réécoutables ensuite. On va terminer cette émission Idée Noire, il nous reste une petite dizaine de minutes, par faire une petite page sociale autour des grèves qu'on vous a annoncées en début d'émission, autour de l'offensive libérale qui s'accompagne d'un véritable plan d'austérité et qui nécessite bien plus d'une grève, puisque les récentes annonces du gouvernement à l'occasion de la présentation du budget ont de quoi inquiéter profondément le monde du travail et particulièrement la fonction publique, parce que pour l'ensemble de la fonction publique, c'est une véritable politique d'austérité en lien avec une tendance qui est mondiale, hein, qui est clairement annoncée, dont les travailleuses et les travailleurs vont clairement faire les frais. On sait que dans tous les secteurs de la fonction publique sont annoncées des suppressions de postes, sont annoncées le gel du point d'indice, c'est-à-dire très concrètement des salaires des fonctionnaires qui va faire que ceux-ci vont perdre tout simplement de la qualité de vie en voyant leur salaire se dégrader par rapport à l'augmentation du coût de la vie et de l'inflation. On sait qu'il y a, et puis surtout, peut-être une des mesures les plus graves est l'attaque sur la protection sociale qui concerne les fonctionnaires, sur lequel on va revenir, et qui s'ajoute à ces mesures qui vont donc dégrader les conditions de vie, les conditions de travail des agents de la fonction publique. Alors on le disait, peut-être la mesure la plus significative et la plus violente est l'atteinte en matière de protection sociale qui vise à faire passer les jours de carence en cas d'arrêt maladie de 1 à 3, c'est-à-dire qu'aujourd'hui un fonctionnaire qui est en arrêt maladie n'est pas payé, n'est pas remboursé, n'est pas pris en charge par la sécurité sociale le premier jour de son arrêt. Là, ça serait les 3 premiers jours de son arrêt qui ne seraient pas pris en charge, ce qui soi-disant serait par souci d'équité avec les salariés du privé, alors que toutes les enquêtes de l'INSEE ou autres montrent très bien que dans la réalité des faits, dans plus de 80% des cas, dans les entreprises privées, les conventions collectives ou les mutuelles d'entreprise couvrent ces jours de carence. Donc si en fait on voulait aligner la fonction publique sur le secteur privé, il faudrait tout simplement supprimer le jour de carence qui a été mis il y a quelques années plutôt qu'en rajouter 2. Ça serait ça qui serait plus égal. Et puis à côté de ça, en plus, après ces 3 jours de carence où donc le salarié malade ou la salariée malade ne serait pas pris en charge, le remboursement commencerait qu'à partir du 4e jour, mais ça serait fini le remboursement à 100%, puisque celui-ci ne serait plus qu'à 90% du salaire à partir du 4e jour, ce qui veut dire que très concrètement, se faire arrêter une semaine pour une bonne grippe qui vous sèche et qui vous cloue au lit, ça revient à payer le fait de soigner plusieurs centaines d'euros de sa poche en fonction de la catégorie de fonctionnaires dont on dépend, mais en tout cas c'est plusieurs centaines d'euros qui vous coûteraient 3 jours de perte nette de salaire, plus 10% ensuite de salaire en moins sur chaque jour de travail suivant auquel vous êtes arrêté. Alors autant dire que bien sûr de nombreuses travailleuses et de nombreux travailleurs de la fonction publique vont hésiter dans ces conditions à s'arrêter et à soigner correctement, vont quand même venir travailler, mais au détriment tout simplement de leur santé et puis au détriment aussi de la santé des autres, puisque quand on vient travailler malade, ça veut dire qu'on va propager les virus, qu'on va mettre en danger sa santé, mais aussi de celles et ceux avec qui on travaille. Alors si cette mesure a entériné, tout simplement, on peut se dire que c'est la fin du système de santé intégrale et de protection sociale tel qu'il avait été pensé par la résistance pourtant à la fin de la Seconde Guerre mondiale dans le programme de la résistance, et tel qu'il a été même pourtant inscrit dans la Constitution, dans le préambule de la Constitution de 1944. Au niveau des attaques contre la fonction publique, on peut signaler celles qui sont particulièrement violentes sur le service public d'éducation, puisque dans l'éducation nationale, c'est 4000 suppressions de postes qui ont été annoncées, alors essentiellement dans le premier degré, dans les écoles maternelles et primaires, où on connaît pourtant déjà la dégradation des conditions et la surcharge de travail qui ont lieu dans ces écoles. Quoi qu'en dise l'affreux Nicolas Sarkozy quand il ose parler avec tant de mépris du travail des personnels personnel enseignant du premier degré, des professeurs des écoles. Et puis, dans le secondaire, dans les collèges, c'est en plus des attaques, je dirais, structurelles, en termes de moyens sur la fonction publique, c'est les attaques qui dégradent les conditions d'exercice pédagogique avec l'annonce de la poursuite du fameux choc des savoirs dont on vous a beaucoup parlé sur cette antenne, l'acte 2 qui devrait rentrer en place à partir de l'année prochaine, qui a de quoi indigner l'ensemble de la communauté éducative, mais aussi bien sûr tous les parents d'élèves, de collégiens ou de futurs collégiens, et puis plus encore tous ceux qui sont attachés à une éducation de qualité. Puisque cette poursuite on le rappelle, de la mise en place de groupes de niveau qui trient les élèves et qui les sélectionnent en mathématiques et en français dès la classe de 6e, et ben serait censé se poursuivre à la rentrée prochaine en classe de 4e et 3e. Alors, austérité budgétaire oblige au rabais, parce qu'il n'y a pas les moyens de financer des groupes de niveau, donc ça serait simplement une heure par semaine où les élèves seraient classés en groupes de niveau, comme si tout au long de l'année scolaire passée, ben, les enseignants et les enseignantes, mais aussi les parents d'élèves, n'avaient pas assez clamé leur opposition à ce projet inégalitaire qui, on le sait, on l'a dit souvent, hein, renforce la reproduction sociale et la sélection scolaire. Une atteinte profonde sur le système public d'éducation. Alors, de manière générale, à propos des services publics, on peut quand même rappeler que pourtant la qualité d'un service public reflète une certaine répartition des richesses dans une société, que ça soit en matière d'éducation, que ça soit en matière de santé, de transport ou encore de culture, tout simplement pas en garantissant l'accès de toutes et tous à ces services publics, à des besoins essentiels sur la base de l'égalité, qui que vous soyez, quelle que soit votre situation sociale et vos revenus, et que donc dégrader les conditions d'exercice des travailleurs et des travailleuses des services publics, c'est aussi dégrader la qualité des services publics en tant que tel, et c'est donc accroître les inégalités et précariser un peu plus des pans entiers de la société, notamment les classes populaires qui ont le plus besoin de l'accès aux services publics pour répondre à ces besoins essentiels qu'on a cités. On terminera en disant que tout ça, ça s'inscrit, ces attaques contre la fonction publique, ça s'inscrit dans une lame de fond qui est celle d'une offensive libérale généralisée, que ces attaques contre les services publics qui s'inscrivent dans un contexte général d'offensive libérale contre le monde du travail, puisque parallèlement aux attaques contre le secteur public, il y a de nombreuses attaques contre le secteur privé où la question des suppressions d'emplois pourrait devenir centrale dans les semaines et dans les mois qui viennent, puisque la CGT par exemple parle d'un risque de 150 000 licenciements qui auraient lieu au cours de cet hiver, que l'emploi et les licenciements reviennent donc sur le devant de la scène et de nombreuses grèves sont prévues, que le temps en fait suspendu dans lequel le pays était plongé suite à la dissolution, les élections législatives, l'absence prolongée de nomination d'un gouvernement, les Jeux Olympiques, puis une incertitude politique autour de la nomination du nouvel gouvernement, semble prendre fin, et que peut-être que le centre de gravité de la vie politique et sociale est en train de basculer des bancs de l'Assemblée nationale vers la rue, et c'est tant mieux, car nous on sait très bien à l'UCL, à l'Union Communiste Libertaire, que c'est par l'action sociale et collective, par l'action syndicale, par les grèves, par les manifestations, par les blocages, que nous pourrons changer les choses et inverser les logiques de démolition sociale en cours, et que à la multiplication des grèves en série qui sont appelées dans le privé chez Michelin, dans la grande distribution, chez les cheminots les 11, 12 et 13 décembre prochains, dans l'action sociale, chez les soignants et soignantes, dans le secteur de la petite enfance, dans la fonction publique, dans son ensemble, le 5 décembre prochain, peut-être qu'un jour, il va falloir faire et agir, et c'est ce à quoi on s'emploie, pour faire converger toutes ces mobilisations dans un mouvement social d'ensemble, un mouvement social d'ensemble qui pourrait peut-être dire stop à la démolition sociale, et puis imposer d'autres choix et construire un autre futur. En tout cas, on peut qu'espérer que l'automne et l'hiver soient chauds, et on vous fait la promesse que nous, on s'y attelle à l'UCL. Voilà, c'est avec ces paroles qu'on va terminer cette émission. On va se passer d'une dernière pause musicale. On va juste peut-être rappeler les rendez-vous. On vous le disait, ce samedi. À 14h, place Jean Masset dans le 7e arrondissement, manifestation contre les violences policières et pénitentiaires. Jeudi prochain, grève dans l'action publique. 11h, place Jean Masset, toujours dans le 7e arrondissement, manifestation de la fonction publique. Et puis, le 12 décembre d'après, le jeudi d'après, journée de mobilisation contre les licenciements dans le secteur privé, avec un rassemblement à Lyon à partir de 11h devant la préfecture sur le quai aux Gagneurs. Voilà, les camarades vous reparleront de tout ça mercredi prochain dans Idées Noires, l'émission de l'Union Communiste Libertaire sur 102.2 de Radio Canu, tous les mercredis soirs de 20h à 21h. Et nous, on vous quitte avec notre générique.
Bonne soirée.